8h passées de 2 minutes sur Aligre FM 93.1. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr. Bonjour à tous, vous êtes dans Voix contre Oreille, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, une émission donc en partenariat avec l'association Pour une Constituante. Aujourd'hui, nous parlons éducation, nous parlons université, l'actualité c'est bien sûr le remplacement du bon vieux système APB, application post-bac par Parcoursup. Alors qu'est-ce que ça change? Et évidemment, c'est l'occasion de parler égalité des chances, tirage au sort, sélection par les notes, sélection par l'argent, et évidemment la question des frais, l'introduction des frais à l'université, le problème des manques de moyens notamment. Et pour cela, donc nous sommes avec Léonard Moulin. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur à l'INED. L'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques.
C'est ça.
Et donc, vous avez fait votre thèse notamment sur les frais de scolarité, si je ne me trompe pas. Vous êtes membre des économistes atterrés et co-auteur du livre « Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur ». Co-auteur avec un co-écrit avec un certain nombre d'autres collègues, paru en 2015 aux éditions Raison d'agir. Et donc, bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Alors, on n'a qu'un seul micro. donc, Clément, c'est toi qui a grandement préparé cette émission. Tu voulais te préoccuper de la question, au départ, c'était la question du remplacement d'APB par Parcoursup. Et évidemment, ça tire tout un tas de sujets, comme je le citais, liés à l'égalité des chances, aux frais, sélection par l'argent, etc.
Oui, donc comme tu le disais, Michel, l'évolution, quelle est-elle? Donc c'est le changement, le passage d'admission post-bac à Parcoursup. Donc admission de post-bac à Parcoursup et donc l'introduction d'une sélection non dite. Donc à mettre en parallèle avec une non-augmentation chronique finalement des moyens de l'université. Dans une période où la population, donc les jeunes qui accèdent à l'université, qui accèdent aux études supérieures, croient sans cesse finalement. Donc pour remettre un peu les choses en contexte, admission post-bac, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la plateforme internet sur laquelle les bacheliers français s'inscrivaient depuis une dizaine d'années, depuis 2008, pour postuler au cursus accessible dans le supérieur. Donc on s'y oriente vers les cursus sélectifs, IUT, BTS, classe préparatoire, ainsi que vers les cursus non sélectifs que sont les universités. Donc IUT, BTS, classe prépa, la chose était assez simple, on classait beaucoup par les notes, éventuellement par les appréciations des profs et par la position, la réputation du lycée. Les universités, au contraire, sont censées être non sélectives. Donc comment est-ce que les choses se passaient? Les gens postulaient à une L1 de psychologie, par exemple. S'il y avait assez de place dans cette L1, alors très bien, tout le monde était admis. Le problème étant que, donc comme je le disais, on a une croissance démographique assez importante au niveau de la population des 17-19 ans. Donc on est à plus de 2,5% cette année, l'année précédente on était à plus de 2%. Tout ça dans une période où le nombre de profs, le nombre de les locaux, finalement n'ont pas été augmentés, n'ont pas été agrandis. Et donc qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une situation où de plus en plus le nombre de demandes dépasse le nombre d'offres. Et donc, qu'est-ce qui se passait avec APB, avec admission post-bac, donc jusqu'à cette année? Eh bien, il n'y avait pas réellement de classement selon les notes. Au contraire, les jeunes privilégiés étaient ceux qui avaient mis en premier vœu, donc on classait ces vœux sur admission post-bac, donc qui avaient positionné en première position la filière en question, donc la L1 en question. Les jeunes qui étaient également dans l'académie, qui pouvaient être en couple, qui pouvaient avoir des personnes à charge. Mais bien entendu, on pouvait se retrouver avec un nombre encore, malgré ces classements-là, on pouvait toujours avoir un nombre de demandes trop important. Et donc, comment est-ce que les choses se passaient? C'était par tirage au sort. Donc, par exemple, en 2016, on avait 92 filières qui ont recouru au tirage au sort, et en 2017, on avait 192. Donc, c'est quelque chose qui est de manière croissante, donc avec des filières en tension, en particulier STAPS, droit, psycho, donc des choses comme ça. Donc, une première question, au vu de cet état de fait, finalement, il y avait besoin d'une évolution. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a consensus ou pas?
Alors, pas vraiment. En fait, la communication du gouvernement, elle est excellente sur ce point-là, c'est qu'elle met le problème sur APB, alors qu'en fait, le vrai problème, c'était celui des moyens. Je m'explique, l'an dernier, sur APB, il y avait 808 000 demandes d'étudiants, enfin, il y avait 808 000 étudiants avec un certain nombre de demandes, et il y avait 654 000 places. Donc forcément, on peut pas avoir une adéquation entre le nombre de places offertes et le nombre d'étudiants qui souhaitent trouver une place dans les filières non sélectives de l'enseignement supérieur. Donc voilà, le problème ne vient pas d'APB, et en fait, si le tirage au sort a été plusieurs fois accusé d'être relativement inéquitable, en fait, le tirage au sort, c'est 3500 bacheliers en 2016, donc c'est relativement peu, c'est moins de 0,5% des nouveaux bacheliers entrant à l'université, et donc on est en train de faire une loi pour 0,5% de la population étudiante en âge de rentrer en L1. Donc, au fond, le problème, c'est pas ça. Le vrai problème, et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de réagir, c'est que l'an dernier, pour la première fois, on a eu recours au tirage au sort en PACES, donc les études de médecine, la première année commune aux études de médecine, et en Île-de-France. Donc à la fois deux symboles de l'excellence, l'Île-de-France, et puis la filière de médecine. Et donc, au fond, c'est pas vraiment une question de... C'est pas du tout une question de sélection, mais vraiment une question de place accordée. Et en fait, un autre choix était possible, c'est celui qu'on a eu à la fin, en fait, à la fin des années 80, début 90, quand on a eu le plan U2000, où on a créé 8 nouvelles universités, dont 4 en Île-de-France. Et aujourd'hui, on savait que la démographie étudiante allait augmenter. On attend encore 300 000 étudiants de plus d'ici à 10 ans. Et une chose toute simple qui aurait été à faire, c'est juste d'augmenter les moyens, d'augmenter les infrastructures, d'augmenter le nombre d'enseignants-chercheurs, d'augmenter le nombre de personnel, etc.
Et quand vous nous dites que 808 000 étudiants postulaient donc via cette plateforme et qu'on avait 400 000 places, donc pour seulement 3 000 tirages au sort, quelque chose comme ça,
650, oui.
Les 400 000 autres étudiants, ils allaient où finalement? Comment ça se passe si,
Alors, en fait, c'est 800 000 et 654 000.
Ouais.
Mais après, c'est parce que les étudiants qui postulent, en fait, les étudiants qui postulent peuvent partir dans d'autres filières qui sont pas sur APB. Parce que sur APB, on avait les filières non sélectives dans l'enseignement supérieur, les filières sélectives publiques, et puis ensuite, on a tout un tas d'autres formations qui sont pas sur APB.
Ok. Et malgré ça, on était bien dans un processus non sélectif en dehors de ce tirage au sort ou pas?
Alors, en ce qui concerne l'université, oui. Uniquement les filières non sélectives de l'université. Mmh. Après, en IUT, en BTS, etc., ça reste en classe préparatoire, ça restait sélectif. Mmh.
Et donc, avant de revenir aux moyens, peut-être une petite précision sur Parcoursup, donc l'évolution d'APB, donc admission post-bac, vers Parcoursup qui a lieu cette année. Donc, les jeunes terminales devront passer par Parcoursup dorénavant. Donc, c'est la suivante, c'est que désormais, les vœux ne sont plus classés. Et à chaque vœu sera associé d'une part des informations du type X% des jeunes ayant suivi cette licence 1, par exemple, première année de licence dans une fac d'administration économique et sociale, par exemple, ont quitté la filière avant la fin de L1, avant la fin de la L1, avant la fin de la L3, des choses comme ça. Et pardon, excusez-moi. Donc les filières dites non sélectives, comment est-ce que ça se passera? Parce qu'on a toujours le même problème. Comme vous le dites, on aurait la possibilité de créer des nouvelles facs comme ça a eu lieu auparavant, ça on n'en parle pas a priori.
Non.
Et donc sélection il doit bien y avoir. Donc si avant on passait par un tirage au sort sur les filières très en tension, finalement aujourd'hui comment ça se passera? On aura des attendus très généraux, donc on a maintenant des attendus très généraux par filière qui sont décrétés par le gouvernement, et ensuite chaque fac, donc pour l'université, hein, chaque fac pourra ajouter, préciser ses attendus par des attendus locaux, donc des attendus respectifs à cette fac en question, dans le but justement de classer les étudiants. Ces attendus, a priori, ne doivent pas reposer sur les notes, sinon on aurait une sélection par les notes. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait finalement? Comment les universités vont devoir organiser ces attendus? Est-ce qu'elles le font? Est-ce qu'elles décident de le faire ou pas, de participer?
Alors, Il faut voir que les attendus pour le moment, donc ceux qui ont été définis au niveau national, ils sont relativement vagues. Si j'en cite quelques-uns, c'est par exemple disposer d'aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel en mathématiques. Ça peut être autonome, être intéressé par les questions de politique, avoir une ouverture au monde, voilà, etc. Ces attendus nationaux, ils vont être complétés par des attendus locaux dans les filières qui sont en tension. Et forcément, les universités, elles vont devoir choisir, lorsqu'on va avoir 2000 candidatures pour 200 places, elles vont devoir choisir, elles vont devoir faire un tri entre les étudiants. En fait, les universités vont juste avoir à répondre oui ou oui si. Et le oui si, en fait, sera... Ce sera une acceptation conditionnelle à l'acceptation par l'étudiant d'un parcours pédagogique spécifique sur lequel on ne sait pas grand-chose pour le moment. Ça peut être des TD en plus, ça peut être des MOOC, des formations à distance, etc. Enfin, voilà, pour le moment, c'est très vague. Donc, on aura deux réponses de l'université, oui ou oui si. Et l'étudiant, lui, je parle uniquement des filières non sélectives, parce qu'en fait, de fait, elles deviennent sélectives. Lui, il aura trois réponses. Ce sera oui, oui si ou en attente. En fait, le « en attente » passera à partir du moment où, si on a 200 places, le 201e candidat sera automatiquement placé en attente. Il verra peut-être ensuite si c'était un « oui » ou un « oui si ». Voilà comment les choses vont se passer. Le problème des attendus, c'est qu'ils vont reproduire et légitimer les inégalités sociales qui existent dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur plus particulièrement. Tout d'abord, dans les choix qui sont faits. On sait qu'à résultats scolaires identiques, les étudiants ne font pas du tout les mêmes choix d'orientation en fonction de leur milieu social d'origine. Et il y a déjà aujourd'hui une forme d'auto-sélection qui existe, et on peut craindre qu'avec la mise en place de ces attendus, elle soit d'autant plus forte. Là, on a 10 vœux non hiérarchisés contre 24 vœux hiérarchisés précédemment. Et donc forcément, les étudiants vont se dire... je ne sais pas si je vais être pris là, donc autant que je vise plus bas... éventuellement, et donc là il y aura vraiment des biais en fonction de son milieu social d'origine pour pouvoir trouver une place dans une formation.
Pourtant 10 vœux, on pourrait se dire c'est suffisant pour placer des choses très finalement ambitieuses et d'autres filières un peu plus faciles d'accès peut-être.
Alors 10 vœux c'est relativement suffisant, ça fait un certain nombre de vœux et en même temps on est quand même sur une problématique qui est que les étudiants, leur objectif lorsqu'ils ont obtenu le baccalauréat c'est de choisir la filière dans laquelle ils souhaitent faire leurs études et donc là on se retrouve dans une situation où on peut être affecté une fois qu'on a passé 10 vœux par le rectorat dans une autre formation et donc on se retrouve avec des situations où les étudiants vont être placés dans des formations pour lesquelles ils n'avaient pas postulé, pour lesquelles ils n'ont pas du tout envie d'aller. Donc on va se retrouver avec des situations très problématiques.
On poursuit le débat ce matin sur l'université, la sélection à l'entrée, le tirage au sort, APB, Parcoursup, juste après une petite respiration musicale.
Tourneuse et militante, société meilleure, dont ils seraient les dirigeants, où ils pourraient faire leur beurre. Voici pour les étudiants, propres sur eux et non violents, qui s'en vont grossir les rangs, les bureaucrates et les marchands. Étudiants, poil aux dents, je suis pas de ton clan, pas de ta race, mais je sais que le coup de pied au cul de ce philo bourgeois qui passe, qui vient de l'école de la rue, et il salit ma godasse. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je veux bien. Y'a la société de demain. C'est les devoirs qui changent la couleur de ton béton. Des HLM sophistiqués, on n'en veut pas, nous, nos maisons. On se les construira nous-mêmes sur les ruines de tes illusions. Et puis on prendra en main, quoi donc, l'habitat urbain. Je sais, ça ne fait pas marrer, je pourrais pas m'en empêcher. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Mais alors qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, moi, quand se faire. Pendant 7 ans, pour être marchand de pénicilline, des saloperies de médicaments. Pour voiture filera des cancers à tour de bras et au prono des ulcères parce que c'est un peu moins cher. Et tiens, mon qui a besoin de toi, là c'est sûr que t'iras pas malgré tous ceux qui vont crever. Tu oublieras que je t'ai chanté, la médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors qu'est-ce que tu veux être? Je sais pas, moi, poète. Y'a plus de facho dans ton bastion que dans un régiment de paras. Ça veut tout dire être du con. Demain c'est toi qui viendras dans ta robe ensanglantée pour faire appliquer ces lois que jamais on a votées. Tu finis juge ou avocat, ta justice on n'en veut pas. Et si tu finis notaire, peut-être qu'on débarquera chez toi pour tirer les choses au clair. Et tant pis s'il est pas là. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas moi, infirmière. T'as jamais lu le Capital, mais il y a longtemps que ça figé. Il faut jamais travailler et jamais marcher au pas. Leur culture nous fait gerber, on veut pas finir l'oufia. Au service de cet état, de cette société ruinée, des étudiants respectables espèrent un jour diriger, entraînant dans leur cartable la connerie de leurs aînés. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Alors tu seras moins que rien, ah oui, ça je veux bien.
C'est Renaud sur Aligre FM 93.1, on est dans Voix contre oreille, émission en partenariat avec l'association Pour une constituante, sur la question de l'université, du Parcoursup qui remplace APB et de l'égalité d'accès. Alors déjà, ce qu'on a compris avec vous, Léonard Moulin, donc je rappelle, vous êtes chercheur à l'INED, notamment, membre des économistes atterrés, c'est que finalement, de fait, il y a moins de places à l'université, environ 650 000, que de demandes autour de 800 000, donc forcément, il y a forcément quelque part un mécanisme de sélection.
Alors oui, avec Parcoursup, il y a un mécanisme de sélection qui va être mis en place puisque les étudiants vont se voir opposer aux vœux qu'ils formulent des réponses du type oui, oui si ou en attente dans les filières dites non sélectives. Donc forcément, pour ça, les universitaires vont devoir étudier des dossiers et décider, à partir des attendus nationaux et des attendus locaux qu'ils auront déclinés, ils vont devoir décider de qui est-ce qu'ils acceptent ou non dans ces formations.
Donc ces attendus, normalement, ne sont pas basés sur les notes, ils sont basés sur, notamment sur cette fameuse fiche à venir, sur laquelle on aura, pour chaque matière, l'avis des profs, sur la capacité de travail, sur l'investissement de l'étudiant, sur son autonomie, des choses comme ça, et sur une courte lettre de motivation. Donc chaque étudiant devra adresser pour chacun de ses vœux non sélectifs, donc dit non sélectifs en tout cas. Donc concrètement, comment ça se passera? Est-ce que les universités seront capables de finalement sélectionner sur des critères non notés? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que ça semble compliqué?
Alors ça semble envisageable de sélectionner là-dessus à partir du moment où on met les moyens en adéquation. Là en fait on a 600 000 nouveaux bacheliers chaque année qui rentrent dans des formations dans le supérieur. Et vous avez 10 vœux par étudiant, donc vous avez 6 millions de vœux, en fait, tout bêtement. Et donc, pour étudier 6 millions de vœux, ça prend énormément de temps de savoir, effectivement, comment est-ce qu'on va trier ces étudiants. et trier sur les attendus qui, pour le moment, ont été définis comme des choses relativement vagues, sur être intéressé à la culture générale, être ouvert au monde, s'intéresser à la politique. Ben, ouais, tout un tas de choses qui est difficile de juger dans la fiche à venir qui va être transmise par les établissements d'enseignement secondaire. Forcément, a priori, c'est les notes qui vont servir à trier les étudiants.
Et concrètement, les universités aujourd'hui, est-ce qu'elles acceptent ça? Elles s'engagent à le sélectionner autrement que par les notes, mais elles savent qu'elles ne pourront pas le faire? Ou alors elles disent, on ne peut pas le faire, donc on va sélectionner par les notes? Ou alors elles disent, on va faire comme avant, mais bon, il y aura besoin d'un tirage au sort? Comment ça va se passer?
Alors, ça dépend des universités. En fait, les attendus locaux sont déclinés par filière dans chaque université. Ce qui va entraîner un certain nombre de problèmes sur lesquels on pourra revenir, qui est une hiérarchisation en fait, des établissements d'enseignement supérieur. Mais donc, elles vont faire remonter par filière, par université, leurs attendus locaux. Et sur la base de ces attendus locaux, les universitaires vont forcément devoir effectuer un tri. Pour le moment, on a un certain nombre d'UFR, donc d'unités de formation, qui ont décidé de ne pas faire remonter d'attendus locaux auprès de l'université, qu'ils les remontent auprès du ministère. Mais dans un certain nombre de cas, lorsque les UFR n'ont pas fait remonter d'attendus locaux, et c'est tout simplement la présidence de l'université qui a dit « vous ne souhaitez pas en définir, nous on sait très bien ce qu'il vous faut, on va en définir pour vous ». Donc il y a des formes de résistance qui se mettent en place, mais qui en fait se heurtent à la machine administrative et qui font que pour le moment, ça, on ne voit pas très bien comment il va être possible de faire autrement, même si, je le rappelle, la loi n'a toujours pas été votée, elle est toujours pas, c'est une loi pas officielle, et on demande à la fois aux étudiants de renseigner des vœux sur quelque chose qui légalement ne vaut rien, et à la fois aux universitaires de sélectionner, de décliner leurs attendus, etc., sur quelque chose qui n'a pas de base légale.
Ça, c'est important, parce que cette loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, vous nous le dites, elle n'a pas été votée au Parlement. Donc finalement, on demande aux universités de faire le gouvernement demande aux universités de faire le travail qu'il leur propose, donc à savoir sélectionner par des critères qui ne sont pas clairs, finalement, et qui vont probablement devenir les notes d'une manière ou d'une autre. Tout ça dans un moment où le Parlement a pas validé finalement cette sélection par les notes. Donc ça, c'est un gros problème démocratique, parce que c'est le Parlement finalement qui représente les citoyens et pas les conseils et pas les présidences d'université. Donc c'est pas normal que les présidences d'université décident finalement pour le citoyen.
Voilà, alors au sens purement, entre guillemets, en marge des choses, il n'y a aucun souci, puisque la loi, il n'y a vraiment aucun doute. Le fait qu'introduire la sélection sera votée par des députés En Marche, par des députés Républicains, ça, il n'y a aucun souci. Mais le vrai problème, effectivement, c'est qu'on demande de faire des choses sur une base qui n'est pas légale. Donc, en fait, on demande à la fois aux étudiants, à la fois aux universitaires, en fait, d'aller à contre-courant de la loi.
Et on cache aussi le point de vue de la majorité en place, finalement, parce que il est clair que le gouvernement aujourd'hui ne dit pas qu'il y a sélection. Il dit non, on aura meilleure adaptation finalement des étudiants en fonction des filières. On aura, les étudiants viseront mieux les filières parce que il y aura cette lettre de motivation qui les encouragera à réfléchir à pourquoi est-ce que je postule ici, pourquoi dans telle ou telle filière. Donc ça, c'est le discours, c'est la com du gouvernement. En deçà de ça, on sait qu'il y a sélection, et donc c'est très important, pour moi de mon point de vue, c'est très important que le citoyen sache que la majorité actuelle décide de la sélection, et ça, comment est-ce que le citoyen peut le savoir? Il peut savoir par le vote du Parlement, finalement. Il n'a pas forcément accès à ce qui se passe dans les arcanes des universités, dans les présidences, au niveau des présidences des universités, des conseils de formation, etc.
Oui, et une des choses qui est extrêmement bien réussie, il y a vraiment une stratégie de communication de la part du gouvernement qui est excellente sur le côté, APB avait des problèmes, on met en place une nouvelle plateforme, alors qu'on l'a dit au début, le problème concernait quand même que 0,5% des étudiants néo-bacheliers. Là, le gouvernement n'arrête pas de répéter, il n'y a pas de sélection, c'est juste une loi sur l'orientation et les réussites, alors qu'en fait, on va examiner les dossiers des étudiants, et donc comment est-ce qu'on peut appeler ça, d'examiner les dossiers des étudiants sur la base des attendus nationaux et locaux autrement que par sélection. Un tri des dossiers, c'est une forme de sélection. Et de la même manière, toujours dans l'optique de la communication, enfin dans sa communication, le gouvernement répète et assène des chiffres sur l'échec étudiant qu'il choisit minutieusement en disant par exemple qu'il y a 60% d'échecs au bout de 4 ans à l'université, ce qui est faux.
Alors donc, ce qui pour, donc, si on pousse le raisonnement un cran plus loin, qu'est-ce qui conviendrait de faire pour, d'un point de vue, qu'est-ce qui serait le plus égalitaire, équitable, à partir du moment où finalement il y a moins de place que de candidats, est-ce que c'est les sélectionner, au hasard, les sélectionner sur les notes, sur le mérite, sur quels critères, d'une part, première question. Et puis deuxième question, évidemment, ça pose la question du nombre de places et des moyens. Est-ce qu'il faudrait finalement offrir des places à tout le monde? Est-ce que c'est vers ça qu'il faudrait aller, c'est-à-dire former tout le monde, accepter tout le monde, sachant que après est-ce qu'il y a assez de travail, etc.
Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment changer totalement de paradigme. Là, on est sur une vision purement idéologique de sélection, de En fait, on demande, c'est vraiment un tournant pour l'éducation, parce qu'on va demander aux étudiants, en fait, d'être des auto-entrepreneurs, et on va justifier ça par le mérite et le fait que, il faut faire un choix, il faut faire son CV, sa lettre de motivation pour rentrer à l'université. Et donc, on met dans la tête des étudiants et des lycéens que l'université n'est plus de droit. Et plus un droit, mais quelque chose qui, entre guillemets, se mérite. Il faut travailler pour ça. La question, au fond, que vous posez, c'est effectivement celle de est-ce qu'il faut que tout le monde aille à l'université, puisqu'on se souvient qu'Emmanuel Macron a fait une sortie là-dessus au début de l'année universitaire. Non, la question... pas tout le monde ne doit aller à l'université, mais doivent aller à l'université ceux qui en ont envie, ceux qui veulent faire des études et doivent aller dans d'autres formes de filières, ceux qui ont envie de faire d'autres choses. Et le problème est toujours le même, c'est qu'on sait que les choix d'orientation sont construits en fonction du milieu social d'origine. Donc, encore une fois, ceux qui vont dans certaines filières, ceux qui vont dans d'autres, c'est pas les mêmes étudiants. Et donc, ce qu'il faudrait vraiment, c'est essayer de faire en sorte que l'école ne légitime plus, dès le plus jeune âge, la culture des milieux les plus aisés, mais fasse en sorte d'être... un vecteur d'émancipation du plus grand nombre en rendant les choses plus équitables. Et ensuite, effectivement, à partir du moment où on retrouvera une égalité des chances à l'école, au collège, au lycée, on pourra dire, maintenant, effectivement, on peut créer plus de places, par exemple, dans les filières professionnelles et faire que les lycéens, les collégiens s'orientent plus dans ces filières, mais pas par défaut comme c'est le cas aujourd'hui.
Aujourd'hui, on sait que, vous nous parliez de l'échec tout à l'heure, aujourd'hui, on sait que 45% des L1 passent des premières années de licence passent effectivement en deuxième année de licence, 30% redoublent et 25% sortent du système universitaire, donc pour s'orienter vers des études plus courtes ou simplement sortir du supérieur. Et ça, avec des différences suivant les licences. Donc, par exemple, en L1 administration économique et sociale, on est à 30% de passage à la fin de l'année de la L1 première année de licence vers la L2, donc la deuxième année de licence. Et que le taux d'entrant dans le supérieur qui le quitte ensuite sans diplôme est de 20%. Avec ces chiffres-là, on pourrait se dire, a priori, finalement, les gens qui rentrent dans le supérieur, ils y vont un peu le pied levé, et au bout d'un an ou deux, ils disent, finalement, c'est peut-être pas pour moi, ça m'intéresse pas, ou c'est difficile, ou j'ai pas envie de m'y investir, plein de raisons qui peuvent être différentes, ou je n'ai pas la possibilité de m'y investir en raison du travail que je dois effectuer par ailleurs pour financer mes études, donc ça c'est une autre possibilité aussi. Et donc, on pourrait penser que, étant donné ce taux d'échec qui est malgré tout important, ça on peut pas non plus le nier, que la sélection, elle est positive finalement. On va éviter que la France finalement paye pour ces 20% d'entrants dans le supérieur qui vont finalement le quitter sans diplôme, donc pour qui c'est finalement des années perdues. Et là, ce que vous suggérez, c'est finalement que ces jeunes en échec, ce n'est pas pour des raisons personnelles, c'est pas un manque de motivation, c'est pas un manque de capacité à travailler, des choses comme ça qui posent problème, mais finalement c'est les programmes qui sont tournés vers des milieux sociaux plus élevés, plus aisés, etc. Et donc ces jeunes en échec qui viennent plutôt de milieux sociaux plus défavorisés en moyenne, finalement c'est pas leur faute personnelle s'ils ne poursuivent pas leurs études dans le supérieur et en L2, en L3 et éventuellement en master.
Alors justement, pour compléter, faire la transition entre les questions, la mise en place d'une sélection, donc je l'ai dit tout à l'heure, va asseoir l'idéologie du mérite. Et en fait, le mérite, il va servir principalement à légitimer, à naturaliser les inégalités sociales. Quand vous dites qu'il y a des années perdues, que effectivement on a 42% des L1 qui passent en L2, en fait, faut comprendre à quoi sert l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, il sert pas à former, comme on peut l'entendre en ce moment sur les ondes de radio, il sert pas à former des travailleurs. C'est pas ça le but de l'enseignement supérieur. Ça, c'est le but d'un enseignement professionnel. Et donc, c'est en fait l'enseignement supérieur, un espace de réorientation, de transition, de parcours un peu plus long, et en assénant le chiffre de « il y a 60% d'échecs parce qu'il n'y a que 40% des L1 qui vont en L2 l'année suivante » ou « qu'il n'y a que 40% des L1 qui obtiennent une licence en 4 ans », ce qu'on fait, c'est qu'on va assimiler tout ce qui est des retards, des réorientations, à toute sortie du système universitaire à un échec. Et en fait, ce n'est pas le cas. En fait, on peut mesurer ce qu'on appelle l'échec de manière totalement différente. C'est notamment ce qu'ont fait Sophie Orange et Romuald Baudin sur l'université de Poitiers, où ils étudient une cohorte d'étudiants, et en fait, ils montrent que des chiffres de 45% d'échecs. En fait, non, quand on recompte les choses, quand on n'assimile pas les réorientations, les changements de filière, le redoublement, le fait que certains étudiants arrêtent l'université pour aller dans des filières sélectives de l'enseignement supérieur comme les BTS, les IUT, etc., et ben le taux qu'on calcule est beaucoup plus faible. Et c'est là-dessus aussi où forcément le gouvernement réussit très bien en disant voilà, il y a 60% d'échecs, c'est insoutenable, c'est pas normal qu'on paye pour ça, et donc il faut mettre en place une sélection. Quand on regarde les vœux des lycéens qui étaient formulés sur APB, en fait, on s'aperçoit que dans 80% des cas, les étudiants obtiennent leur premier vœu. Donc, c'est pas une histoire de motivation. S'ils obtiennent à 80% leur premier vœu, c'est bien qu'ils sont dans la filière qu'ils avaient choisie et qu'ils ne sont pas démotivés ou autre. Après, il peut y avoir un temps d'adaptation à l'enseignement supérieur, mais qui fait partie, en fait, des trajectoires en enseignement supérieur. Il faut arrêter de penser les parcours individuels comme des choses uniquement linéaires.
Et ces 20% de second choix, éventuellement derrière de réorientation, des choses comme ça, sont des choses qu'on pourrait éviter en amont à travers cette sélection, cette demande de préciser les motivations et donc de peut-être mieux réfléchir finalement à ses choix et pas simplement de cliquer sur son ordinateur. Ou est-ce que ça, c'est vraiment du bullshit? Et en réalité, non, les jeunes, évidemment, ils réfléchissent à ce qu'ils font au moment où ils postulent pour l'enseignement supérieur. Et évidemment, ils savent classer leurs vœux sous APB aujourd'hui, ne plus les classer, mais bien les choisir. Ils savent que c'est important pour eux finalement, et ils font de la meilleure manière possible. Et voilà quoi.
Alors, le problème, c'est que dans la constitution même des dossiers, du choix de filière, tout est tronqué. J'ai dit au début, donc sur le côté, les choix de filière sont faits en fonction du milieu social d'origine à note égale. Il y a un phénomène d'autosélection qui s'opère. Dans la constitution des dossiers, pour chacun des vœux, donc on va demander un CV et une lettre de motivation. Et on sait en fait que c'est une source profonde d'inégalité en fonction forcément de l'aide dont pourra bénéficier chaque lycéen. Or, on sait que ce sont les parents les plus aisés qui ont le plus de ressources culturelles, économiques, sociales pour cerner les attendus de ceux qui vont juger les dossiers, les universitaires. Donc forcément, on est déjà sur quelque chose de tronqué dans la constitution des dossiers, et même dans la sélection sur dossier, les étudiants des milieux les plus modestes, même s'ils viennent des mêmes filières, n'auront pas certains éléments dans leur dossier qui vont leur permettre d'être pris dans une formation comparée à quelqu'un qui a les mêmes résultats, qui vient de la même filière, mais qui vient pas du même milieu social. Par exemple, la maîtrise d'une troisième langue, le jeu des options qui a été fait au collège ou au lycée, pour laquelle, en fait, les parents des milieux les plus aisés ont déployé très tôt des stratégies d'orientation, de choix d'options, de choix d'établissement, qui là, vont peser. Par exemple, on entend que des attendus locaux dans plusieurs formations de sociologie, ça va être d'avoir des compétences minimum requises en mathématiques. Donc, c'est-à-dire qu'on barre définitivement la voie aujourd'hui, alors qu'ils ne le savaient pas il y a 4 mois, à tous les étudiants, à tous les lycéens qui sont en bac L et qui n'ont pas pris l'option maths. Or, les familles aisées, elles anticipent le fait que faire une option maths en L ou choisir d'autres types de filières va pouvoir les aider pour leur orientation, même si il n'y avait pas eu encore Parcoursup qui était défini, et donc vont pas être jugées de la même manière.
Mais est-ce que c'est un problème finalement quand on fait un bac L, a priori on ne veut pas s'orienter vers des études scientifiques, logiquement, donc... Est-ce que c'est pas une bonne chose que finalement les gens qui font un bac L ne puissent pas accéder à une fac de, je sais pas moi, maths ou des choses comme ça?
Alors là, on parlait vraiment de sociologie, donc ça paraît a priori légitime que des bacheliers littéraires accèdent à des études de sociologie, okay, de sciences humaines. Après, sur la question de est-ce qu'un bac L peut aller en licence de maths, etc., effectivement, ça semble relativement surprenant, puisque c'est pas ce qui a été fait, ce qui a été enseigné au lycée. Mmh. Après, il faut que l'enseignement supérieur puisse rester un espace ouvert où on peut se réorienter, etc.
Et donc, ce que vous proposez, si, pour de l'autre côté de la sélection, finalement, c'est l'augmentation des moyens de l'université française, puisque on parlait de ces 650 000 postes dans le supérieur pour 800 000 étudiants. Donc avec un manque de place au niveau de l'université, un manque de profs également, finalement, c'est pas juste des salles de classe qui pourraient être plus grandes, c'est bien qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de locaux pour faire ça. Et donc ce que vous proposez, plutôt que de sélectionner, donc garder le nombre de places constant et limiter finalement le nombre de demandes, le nombre d'offres de places pour les terminales, au contraire, c'est de l'autre côté, d'augmenter l'offre, donc d'augmenter le nombre de places accessibles à l'université pour que l'ensemble des étudiants souhaitant se diriger vers la fac y accède effectivement.
Alors il y a à mon avis deux choses. Il y a la première, c'est de permettre à tous ceux qui veulent aller dans l'enseignement supérieur qu'ils puissent y aller. Donc c'est effectivement augmenter le nombre de moyens. En fait, on a une diminution du nombre d'enseignants-chercheurs par étudiant, on a une diminution du budget, on a une diminution des personnels administratifs, et on est dans une situation dans l'université d'extrême tension. On a eu un je sais plus comment on appelle ça, un hashtag Twitter à un moment au début de l'année sur les salles de cours, sur voir l'état des salles de cours, etc. On se rend compte qu'en fait, dans les universités, effectivement, on arrive dans des conditions d'enseignement qui sont pas du tout optimales pour la réussite des étudiants. Et si la loi est une loi d'orientation et pour la réussite des étudiants, eh bien, il faut investir dans la réussite des étudiants. Et ça passe par une augmentation des moyens.
On est avec vous ce matin, Léonard Moulin, dans Voix contre Oreille, sur l'YFM 93.1. On parle d'université et on se retrouve pour continuer sur la question des moyens, des frais d'inscription. Et Clément, donc, vous interrogera là-dessus, juste après la pause.
Sleep.
On se retrouve dans Voix contre oreille sur Aligre FM 93.1, une émission aujourd'hui en partenariat avec l'association pour une constituante. Et nous sommes ce matin avec donc Léonard Moulin, qui est chercheur à l'INED, qui est membre des économistes atterrés et co-auteur d'un livre « Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur ». Et pour vous interroger, eh bien, c'est Clément. Et Clément, tu voulais en venir à la question des frais d'inscription.
Oui, donc comme on le disait, une peut-être l'alternative à la sélection, c'est probablement la question plus de moyens, et donc c'est la question des frais d'inscription qui est soulevée. Pourquoi ? Parce que pour avoir plus de moyens à la fac, il n'y a pas 50 000 manières, soit vous passez par l'impôt et par les taxes, et donc ça coûte cher à la société, soit vous passez par les frais d'inscription, qui coûte également cher à la société, mais finalement pas à la société en entière, mais bien aux gens qui vont effectivement à l'université. Et donc, première possibilité, la levée de taxes et d'impôts. On sait aujourd'hui que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, il est de 24-25 milliards d'euros, d'une part, et d'autre part, donc il est déjà élevé, mais d'autre part, on a une inégalité face à l'accès à l'enseignement supérieur, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Donc, on sait aujourd'hui que 2/3 des enfants de cadres et professions intermédiaires sont effectivement diplômés du supérieur, contre seulement 1/3 des enfants d'ouvriers ou d'employés, par exemple. Et donc, en fait, le financement par l'impôt, par les taxes de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, mais il apparaît un petit peu comme antidistributif. Donc, on aurait un financement... Donc, par l'impôt, oui, qui reviendrait aux plus riches, finalement, aux enfants des classes les plus riches. Donc, a priori, c'est une condition qui semble difficile d'avancer pour augmenter les moyens. De l'autre côté, on a la question des frais d'université. Donc, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de ces deux alternatives ?
Alors, effectivement, présenter le fait que l'alternative à la sélection, c'est plus de moyens, et c'est effectivement, il faut le dire, le choix que n'a pas fait le gouvernement. Le gouvernement a décidé de sélectionner au lieu d'accorder des moyens, en présentant le fait qu'on est dans une période de restriction budgétaire et que, eh bien, on peut pas augmenter les moyens pour l'enseignement supérieur, ce qui est relativement cocasse quand on sait que le crédit impôt recherche coûte 6 milliards d'euros par an, soit le double du budget du CNRS, qui est le plus gros EPST, établissement public scientifique et technologique en France. Mais donc, effectivement, on met en place la sélection et vient par-dessus, puisqu'en fait, elle est lacinante dans le débat français. Comme la sélection, elle arrive dans le débat français avant 68, au début des années 60, elle revient sous De Vaquet, et puis là, effectivement, elle se met en place. L'introduction de frais d'inscription, c'est un peu la même chose, c'est une vieille idée qui ressurgit par moments et qui, depuis le début des années 2000, prend de plus en plus d'ampleur dans le débat public. Et les arguments sous-jacents présentés reposent, comme vous l'avez dit, donc sur l'augmentation des moyens des universités, et puis d'autre part sur une plus grande équité. Sur l'augmentation des moyens des universités, en fait, c'est un argument qui paraît relativement tautologique, qui dit qu'effectivement, si on prend des frais d'inscription, on a plus d'argent et donc on peut donner cet argent aux universités. En fait, on s'aperçoit quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays étrangers que l'État tend généralement à se désengager à mesure que les frais d'inscription prennent le relais. Par exemple, au Royaume-Uni, entre 2005 et 2008, les dépenses de l'État pour l'enseignement supérieur ont diminué de plus de 20%, pendant que les dépenses des ménages augmentaient de plus de 50%. Donc on a en fait une substitution entre les dépenses publiques et les dépenses privées. De la même manière, les mécanismes d'accompagnement des frais d'inscription, c'est généralement en fait des prêts pour que les étudiants puissent payer leurs frais d'inscription, ils présentent un coût élevé pour les finances publiques, et par exemple au Royaume-Uni toujours, le triplement du niveau des frais d'inscription en 2011, qui s'est accompagné en fait d'une baisse des subventions aux établissements de 40%, donc normalement le gouvernement doit faire des économies, en fait coûte plus cher aujourd'hui au gouvernement que l'ancien système, parce que le gouvernement est responsable, entre guillemets, du taux de défaut sur les prêts étudiants. De la même manière, si on cite le cas emblématique de Sciences Po Paris, lors de l'introduction des frais d'inscription en 2003, les recettes de l'établissement elles sont passées de 5 à 25 millions d'euros. Et en fait, une partie importante du gain monétaire, ça a été relevé par la Cour des comptes, a servi à alimenter un système de primes qui était relativement opaque et qui n'est pas forcément allé dans la qualité de l'enseignement pour justement les étudiants. Voilà, l'argument frais d'inscription égale plus de moyens est faux. L'argument frais d'inscription égale plus d'équité est faux également. En fait, il repose effectivement sur le fait que les classes favorisées sont surreprésentées dans l'enseignement supérieur, vous l'avez rappelé, et donc mettre en place des frais d'inscription permettrait de redistribuer davantage. De
la même manière, ils sont accompagnés par un système de bourse pour les moins aisés.
De la même manière, la fiscalité qui permet le financement de l'enseignement supérieur, elle repose sur une fiscalité qui, en France, est faiblement progressive, voire régressive pour les derniers déciles. Donc, là aussi, c'est inéquitable. En fait, pour que la mise en place de frais d'inscription permette de garantir une certaine forme d'équité, il faudrait que les contributions soient progressives et que les compensations financières en direction des classes les moins favorisées soient suffisantes. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'a jamais été le cas à l'étranger. À chaque fois qu'on a mis en place des frais d'inscription, ça n'a pas été le cas. Par ailleurs, l'idée en fait, selon laquelle il faudrait mettre en place des frais d'inscription au nom de l'égalité et des classes populaires est tout simplement fausse. En fait, le CERC, qui est le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, qui est le seul rapport en fait, qui existe qui aborde la question des effets redistributifs des dépenses d'éducation, montre que les dépenses d'éducation n'ont pas un effet redistributif sensible dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, le système de financement de l'enseignement supérieur aboutit bien à une redistribution de faible ampleur parce qu'elle repose sur un système de financement, l'impôt, qui a une progressivité très faible, mais existante quand même. Et par ailleurs, et c'est le cas on n'en a pas parlé, mais c'est le cas avec la sélection, donc je vais revenir une minute sur la sélection, c'est qu'en fait, les frais d'inscription, c'est la même chose, c'est que ça risque d'accroître la polarisation dans l'enseignement supérieur. Typiquement, avec les frais d'inscription, on peut s'attendre, et ça a été observé à l'étranger, notamment aux États-Unis ou au Chili, on s'aperçoit que quand on met en place des frais d'inscription, on a des universités prestigieuses qui arrivent à recruter des étudiants qui viennent des milieux favorisés et à récolter des moyens, et puis on a d'autre côté des facs, entre guillemets, poubelles de seconde zone qui recrutent des étudiants de milieux de moins favorisés et avec moins de moyens. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec la sélection, ça va être exactement la même chose qui va arriver, avec les attendus locaux qui vont se décliner. On passe d'un enseignement supérieur où tous les diplômes se valent théoriquement. En pratique, on voit que c'est faux. C'est déjà faux, mais théoriquement, ils se valent. Où on va passer à un système où, comme chaque université, chaque filière va définir ses attendus locaux, on va avoir une hiérarchisation qui va exister. On peut prendre le pari qu'à la rentrée prochaine, on a une hiérarchisation faite par tout un tas de magazines dans la presse sur les filières de psychologie, les filières de PACES, classement des universités, alors qu'en fait, ce serait totalement illégal, un non-sens dans la mesure où les diplômes valent la même chose ou qu'ils soient obtenus sur le territoire en France. Et donc, on va avoir une hiérarchisation, je termine là-dessus, entre des universités qui arrivent à attirer des étudiants qui viennent de milieux favorisés et donc qui vont accroître en retour le prestige de l'établissement et puis d'autres universités, donc une hiérarchisation de ces établissements. Ouais.
Sur les frais d'inscription, on remarque quand même que la qualité des bâtiments, la qualité de l'accompagnement des élèves, par exemple à Sciences Po, par exemple dans les grandes facs anglaises, grandes facs américaines, n'a absolument rien à voir avec ce qui peut exister dans les facs françaises. Les bâtiments des facs françaises, de nombreuses facs françaises sont sérieusement délabrés. Le support à l'enseignement, à l'accompagnement des élèves est délicat parce que les secrétariats sont engorgés par le nombre d'étudiants auxquels ils doivent répondre, par le nombre de cours qu'elles doivent gérer, finalement, pour organiser les classes, etc. Et ces frais supplémentaires, première chose, ils permettraient, a priori, si on compare les facs qui ont des frais aux facs qui n'ont pas de frais, on voit bien que les bâtiments et le support de l'enseignement et de l'accompagnement à l'élève sont bien meilleurs dans les côtés fac avec frais que côté fac sans frais, première chose. Et deuxième chose, est-ce que désinvestissement de l'État est nécessaire finalement. Vous nous dites, lorsqu'il y a frais d'inscription, lorsqu'on met en place des frais d'inscription, lorsqu'on les augmente, l'État, en fait, au lieu de maintenir un niveau constant d'investissement, il se désengage et on a une substitution entre les dépenses d'État et les dépenses des jeunes, donc à travers les frais d'inscription. Est-ce que ça, c'est nécessaire? Est-ce qu'on pourrait pas pondre une loi ou un accord, un consensus en disant non, l'État, il ne désinvestit pas et ces frais d'inscription, finalement, s'ajoutent aux dépenses qui existent déjà aujourd'hui?
Alors, en fait, ces deux questions, elles traitent de la même chose, c'est-à-dire que effectivement, si on a plus d'argent, on peut avoir des bâtiments de meilleure qualité. En fait, c'est pas là la question. La question, c'est vraiment de changer de paradigme en passant par des frais d'inscription ou en passant par la sélection. C'est bien ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est être à courant d'une logique, parce que c'est ça aussi avec la sélection, avec le fait que chaque étudiant va devenir un auto-entrepreneur en présentant son CV, sa lettre de motivation, et il doit se faire recruter par l'université. En fait, c'est ça qui se passe avec la réforme actuelle. Et avec la frais d'inscription, c'est un étudiant qui devient un micro-capitaliste où il doit choisir sa filière en fonction des gains qu'il espère sur le marché de l'emploi à la suite de cette étude et qui compare ça à son investissement initial, c'est-à-dire au fait de faire des études plutôt que d'aller tout de suite sur le marché de l'emploi. Et donc, on est, avec la sélection et les frais d'inscription, là où les deux choses se rejoignent, c'est que on est dans une vision où l'éducation est pensée uniquement en termes de rendement individuel et pas du tout en termes de rendement collectif, en tant qu'apport pour la société. Ce qu'on n'arrête pas d'entendre aujourd'hui, c'est effectivement qu'il faut choisir telle filière, faire ceci, etc., pour l'étudiant. Et on questionne jamais, à aucun moment, l'apport qu'on peut avoir, à avoir plus d'étudiants diplômés dans telle filière, voilà, toutes les retombées sociales de l'éducation ne sont pas questionnées. Et un des effets qu'on va avoir, qu'on observe lorsqu'on a eu des frais d'inscription et qui est a priori projetable sur la mise en place de la sélection, c'est des filières qui vont devenir des filières de seconde zone qui vont être non choisies par les étudiants et ou du coup qui sont des filières où il est utile d'avoir des étudiants qui y allent, mais on va plus questionner ça et on va penser uniquement en termes de rentabilité individuelle.
Et donc l'alternative à la sélection et aux frais d'inscription, ce serait quoi alors?
Et c'est simplement d'augmenter les moyens.
Mais comment? Par l'impôt?
Par l'impôt, en le rendant déjà plus progressif qu'il ne l'est aujourd'hui, en augmentant les contributions des différents ménages et en faisant aussi contribuer, parce que on n'en parle pas aujourd'hui, mais en faisant contribuer encore davantage les entreprises au financement de l'enseignement professionnel. Puisqu'aujourd'hui, les entreprises essayent de s'immiscer de plus en plus dans le financement de l'enseignement, dans l'enseignement supérieur, en essayant de faire des partenariats avec des universités, des fondations, etc.
On le voit avec les contrats d'apprentissage qui se développent dans le supérieur, les contrats pro, des choses comme ça.
Voilà, alors qu'en fait, non, l'entreprise, elle a un intérêt quand elle a un étudiant qui est formé pour toute une gamme de métiers, et donc c'est à elle aussi de supporter le coût de cet investissement.
Ça existe quelque part? Est-ce qu'il y a des pays qui ont organisé les choses plutôt de cette manière-là que par la sélection et les frais universitaires?
Non, par contre, on a des pays... Alors oui, mais pas sur le côté financement professionnel, il me semble. Mais en tout cas, on a des pays, typiquement les pays du nord de l'Europe, où l'investissement de la société pour les étudiants est beaucoup plus important, où on a une dépense par étudiant qui est beaucoup plus importante. Et on a même des bourses d'études pour les étudiants, qui sont des allocations d'autonomie, qui leur permettent de financer leurs études sans avoir à travailler à côté. Et donc, ça réduit encore plus le risque d'échec qui est, encore une fois, lié au milieu social.
Finalement, pour conclure, on a un peu l'impression que on laisse un peu décrépir ce système d'université. Clairement, on met pas les moyens. L'expérience montre que quand on veut vraiment mettre les moyens, on les a. Pour les budgets militaires, etc., on trouve l'argent. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça finalement? Est-ce que on laisse un peu le système décliner pour favoriser l'enseignement privé, la privatisation de la fac, etc.? C'est vers ça qu'on va. C'est là qu'il faut voir l'intention.
Alors l'intention, vous faites Très bien de le rappeler, c'est qu'effectivement, l'État, il ne faut pas l'oublier, a créé les conditions pour que la sélection devienne acceptable. Aujourd'hui, pour un certain nombre de lycéens, pour un certain nombre d'étudiants, pour un certain nombre de profs, la sélection, bah ok, on s'y fait, et c'est relativement acceptable parce qu'on est dans une situation de pénurie de moyens, on est dans une situation voilà, compliquée. Et si le gouvernement fait choix, c'est uniquement parce que derrière ça, il y a une vision politique et idéologique qui se dessine, et en fait qui est celle de la mise en marché de l'enseignement supérieur.
Voilà, donc ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission. Et on va s'arrêter là-dessus, malheureusement. Merci beaucoup, Léonard Moulin, pour toutes ces explications. Je rappelle, donc, vous êtes chercheur à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, membre des économistes atterrés. Merci, donc, Clément, d'avoir préparé cette émission.
Merci.
Et c'était une émission en partenariat avec l'Association pour une constituante.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'Association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Voilà, une nouvelle émission avec l'Association pour une constituante. On se retrouve donc mercredi prochain dans Voix contre oreille. Avant de se quitter, je voulais juste annoncer demain matin à 8h du matin, 8h pétante, débute le procès de Loïc. Loïc de la compagnie Joli Môme. Alors, on en a parlé plusieurs fois à ce micro. Hein, ça fait la quatrième fois que ce procès est reporté. Loïc, comme un certain nombre de ses collègues, avait été mis en examen, poursuivi par le MEDEF pour avoir envahi pacifiquement, bien sûr, le hall du MEDEF lors des manifestations contre la loi El Khomri. Donc ça remonte à un certain temps. Il a été accusé de violence qu'il n'a absolument pas commise. L'ensemble de ses collègues qui ont déjà été jugés ont été relaxés. Pour Loïc, ça commence demain, donc on appelle à le soutenir, donc c'est demain matin, jeudi 25 à 8h devant le tribunal de Paris, voilà, au métro Cité, pour le soutenir dans son procès, qui est une fois de plus un procès politique, hein, pour bâillonner les militants, criminaliser les militantes. Voilà, donc bonne chance à Loïc pour son procès à partir de demain matin. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain à 8h dans Voix contre oreille. Merci Pascal qui était à la réalisation de l'émission. Merci donc Clément qui a tout préparé et Félix aussi qui nous aide sur les médias sociaux, la photo. Donc on peut retrouver Voix contre oreille sur sa page Facebook du même nom et Aligre FM également à sa page Facebook et son site aligrefm.org sur lequel vous pouvez réécouter toutes les émissions. Très bonne journée à tous sur Aligre FM.